Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ce temps que tu nous accordes. Seigneur, viens prendre la première place au milieu de nous. Toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi. Nous voulons recevoir, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, comme nous venons de chanter au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Apocalypse 2. C'est la lettre à l'église d'Éphèse. Mais cette lettre à l'église d'Éphèse est une lettre en réalité à tout chrétien. Et voilà ce que le Seigneur dit, Apocalypse 2, à partir du verset 1er. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, qui était une église à cheval sur la doctrine et dans le travail sérieux, avec zèle. Mais vous savez, le Seigneur, lorsqu'il nous voit, puisque Dieu est parfait, Dieu est saint, et il veut que nous soyons comme lui. Alors le Seigneur ne voit pas et ne considère pas ce que l'homme considère. On se rappelle lorsque Dieu parle au prophète Samuel en disant, lorsque Samuel va pour oindre le roi dans la famille d'Isaïe, et il voit passer le frère de David, il se dit certainement, lui, avec sa force, sa grandeur, c'est lui le roi. Mais à chaque fois, Dieu lui dit non, pas lui parce que je l'ai rejeté, pas lui parce que je l'ai rejeté. Et Dieu dit à Samuel que lui ne considère pas ce que l'homme considère. Et cette église, visiblement, est correcte. On dirait même parfaite, puisque le Seigneur en fait l'éloge en disant que tu ne supportes pas ceux qui apportent la fausse doctrine. Je connais ton zèle, ta persévérance, ton travail. Vous savez, persévérer, c'est prendre une direction et continuer dans cette direction et malgré les difficultés. C'est là qu'on parle de persévérance, puisqu'il y a toutes sortes d'obstacles qui viennent pour nous empêcher de continuer et on tient bon malgré tout. Et le Seigneur dit, je connais cela, cette persévérance-là. Il dit que tu as même souffert à cause de mon nom. Mais c'est ça que beaucoup ont du mal à accepter, bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens. Souffrir de manière générale, c'est difficile. On prend Dieu à témoin à cause de nos souffrances pour dire, mais Seigneur, regarde comment je souffre. Mais là, on nous dit, tu as même souffert à cause de mon nom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il suffisait que tu renies mon nom, la souffrance s'arrête. Mais il dit non, toi tu as choisi de souffrir à cause de mon nom. Mais au verset 4, les choses changent. Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En quelque sorte, je ne suis plus la priorité dans ta vie. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est un questionnement, c'est une interrogation. Dieu est-il vraiment la priorité? C'est ça, c'est ainsi que nous avons intitulé notre partage, notre cheminement de ce matin. C'est C'est une interrogation qui ne nécessite pas, bien aimé, de dire oui ou non, puisque oui ou non, en réalité, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de faire le lien avec Psaume 139. Vous savez la prière de David, où David dit « Sonde-moi, Éternel, connais mon cœur. » Et Dieu lui-même dit que lui sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire, vous voyez le texte qu'on a pris là, il y a deux réalités. Il y a la réalité visible que Dieu décrit en disant que tu es parfait. Quand les gens te voient, ils voient que tu es parfait. Mais il y a la réalité invisible que seul Dieu peut percevoir. Et Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, je ne suis plus la priorité dans ta vie. Vous savez, dans notre marche chrétienne, rapidement, on a vite fait de devenir des... Quel terme on pourrait prendre? Des fonctionnaires. Vous savez, un fonctionnaire, il travaille machinalement, il vient, il pointe, il sait qu'il a été pointé présent à la fin du mois, il a son salaire, il a une sécurité d'emploi, il a une sécurité aussi au niveau des... Vous savez, quand tu vas prendre un crédit en tant que fonctionnaire, tu as une certaine légitimité auprès des emprunteurs, qui vont te, auprès des créanciers. Tu as une certaine légitimité puisque tu es fonctionnaire, tu n'es pas en CDD. Donc, il y a une sécurité qui fait que, à la fin de l'année, généralement, tu as ton 13e mois, tu as ta prime de fonctionnaire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'avantages qui font que on est dans un système sécur. Et c'est ce qui arrive à cette église qui a atteint des objectifs humains. Parce que c'est que le Seigneur a décrit là. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. C'est beaucoup. Mais le Seigneur trouve toujours quelque chose à redire. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Tu as beau dire, oui, mais Seigneur, moi je te sers, je suis fidèle. Mais cette église aussi a servi avec fidélité. Jésus dit à cette église, je connais ton travail. Tu ne fais pas semblant quand tu travailles, je le connais. Sinon le Seigneur n'aurait pas dit ça. Donc quand on dit travail, c'est, il y a l'organisation. Il y a les réunions de travail. Il y a les productions. Tout ce qui est fait, il dit, je connais. J'en suis témoin. Et même l'attachement à la doctrine, tu y es attaché. Mais le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que suis-je encore la priorité? C'est ça l'objet de notre méditation aujourd'hui. L'objet de notre questionnement. Dieu est-il la priorité dans notre vie? C'est ça la question. La question n'est pas de dire, mais je suis régulier au culte. Je suis présent à l'intercession. J'arrive 30 minutes avant. Gloire à Dieu. Vaut mieux arriver 30 minutes avant que 5 minutes en retard. Gloire à Dieu. Mais la question du Seigneur, est-ce que nous faisons les choses parce qu'on doit les faire mécaniquement? Ou alors, nous les faisons par amour pour lui. C'est ça qu'il est en train de dire à cette église-là. Où est l'amour? Et le Seigneur va plus loin pour dire, repens-toi, ne reste pas dans cette... Vous voyez, notre conception de la repentance, c'est que j'ai péché, j'ai tapé, j'ai mal parlé à quelqu'un, j'ai humilié quelqu'un, j'ai mal réagi, alors il faut que je me repente. Mais vous voyez, Dieu dit ici à cette église, pourtant tout ce qu'elle fait est correct. Mais il lui dit plus que tu as perdu le premier amour vis-à-vis de moi. Repends-toi. Vous voyez, la conception de Dieu est différente de la nôtre. Nous, la repentance, c'est parce que j'ai mal fait, j'ai péché. C'est ça même le thème, le terme péché, c'est rater la cible. Or, selon Dieu, péché, c'est... ne pas faire ce que Dieu attend. Ça va plus loin, je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que parfois, tu vas répondre à quelqu'un sans avoir était blessant, méchant, mais le Saint-Esprit peut te reprendre pour dire non, là tu as mal parlé. Puisque le Saint-Esprit, même si visiblement tu as parlé correctement, mais le Saint-Esprit lui va te reprendre pour dire non, repens-toi, puisque tu as mal fait. Ton intention, en fait, Dieu lui sonde l'intention. Même si visiblement tu t'es bien tenu, mais Dieu lui va sonder ton intention pour te dire, écoute, repens-toi par rapport à cela. Et parfois, tu vas aller voir la personne pour dire, écoute, je m'excuse pour tout. Mais la personne dit, mais non, tu m'as répondu, j'ai rien vu, moi. Mais oui, mais puisque toi, tu ne vois rien, mais moi, je sais au fond de moi ce qu'il y avait quand j'ai répondu. Et c'est là que Dieu amène cette église bien-aimée. Il dit, repens-toi. La question d'aujourd'hui, c'est, Dieu est-il vraiment notre priorité? Faisons une pause pour nous poser cette question-là. Qu'est-ce que la priorité? La priorité, c'est ce qui a la primeur, ce qui a la première place. C'est ce qui n'est pas partagé avec les autres. C'est ce qui vient au préalable, avant toute chose. C'est ça la priorité. C'est ce qui existe sans que les autres ne soient considérés. C'est-à-dire que Dieu lui-même, vous savez, Ésaïe 42, 8, hein, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne ma gloire à personne. » C'est ça la priorité, bien-aimé. C'est-à-dire que cette église-là aimait Dieu, puisqu'on le voit, ils étaient attachés à la vérité, attachés à la persévérance, souffert même, ils ont souffert même à cause du nom de Jésus, mais ils ont partagé toutes ces réalisations avec Dieu. Et c'est là que Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Encore une fois, jaloux. Nous, notre sens humain, c'est quoi? Jalousie. C'est que on me prend quelque chose ou alors quelqu'un prend quelque chose qui m'appartient. Ça peut être une définition. Ou alors quelque chose que je convoite, que l'autre a, eh bien, ça me rend jaloux parce que moi j'aurais voulu avoir cette chose-là. Mais quand Dieu dit jaloux, il dit en réalité que il ne peut être partagé avec personne, puisque c'est lui qui est Dieu. Vous savez, bien aimé, Dieu ne comprend pas que nous puissions désirer autre chose que lui. Il ne comprend pas ça. Que nous puissions désirer autre chose que lui. Alors méditons, bien aimé, dans nos vies. Quelles sont les choses que nous partageons avec Dieu? Peut-être que tu diras, oui, mais moi je suis toujours attaché à Dieu. J'aime le Seigneur. Mais bien aimé, là n'est pas la question. Le Seigneur nous dit ce matin que lui ne se contente pas que tu l'aimes seulement. Gloire à Dieu, encore une fois. Mais Dieu veut la première place, et la seule place. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 6, 33, que nous lisons. Pour avoir l'explication de la pensée de ce matin, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous savez, Jésus parle aux humains de la réalité de la vie. Puisque nous sommes dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à inquiétude. Il y a l'instabilité du monde, il y a la peur du lendemain, il y a toutes les réalités qui sont autour. Et Jésus est conscient de cela, mais il dit « Cherchez premièrement ». Et dans une autre version, c'est écrit « Cherchez prioritairement ». Ou en français, on pourrait dire « chercher en premier lieu le royaume de Dieu ». En quelque sorte, cherchons Dieu premièrement. C'est ça l'ordre de priorité. Vous savez, dans la vie, L'homme intelligent, c'est l'homme qui sait prioriser les choses. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas avoir 19 sur 20, avoir le cours, pouvoir le retranscrire. Ce n'est pas ça l'intelligence. Je me rappelle quand on était à la fac, première, deuxième année, c'était le par cœur. Et souvent même, on avait dans notre groupe, surtout les filles qui étaient dans notre groupe, qui faisaient des cartouches, comme on appelait à l'époque, et qui trichaient sans problème. Et quand on affichait les notes, elles avaient 19, 18 sur 20 de moyenne. Mais des tricheuses. Mais vous savez, quand on passe maintenant en troisième année, là, on n'est plus dans le cours. On n'est plus dans réciter le cours. On est maintenant dans la réflexion. Le prof vient, il vous donne un sujet. Développer. Ah, je peux vous dire que celui qui avait en première, deuxième année 19, puisqu'il trichait, il mettait le cours, ben là, ça change. Là, maintenant, on fait appel à la logique, à la réflexion. On te donne un cas pratique. Comment tu réponds? Et l'intelligence, c'est celui qui sait prioriser les choses. Qu'est-ce que je mets en premier lieu? Qu'est-ce que je mets ensuite en dessous? C'est ça, bien-aimé. Et là, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça le conseil du Seigneur ce matin. Dieu est-il vraiment la priorité dans nos vies? Encore une fois, il ne s'agit pas de dire oui ou non. Il s'agit de méditer pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ma vie compte plus que toi? Seigneur, qu'est-ce qui fait que mon travail compte plus que toi? Seigneur, qu'est-ce qui fait que mes pensées à moi, mes objectifs, mes projets de réussite comptent plus que toi? Qu'est-ce qui fait que ma famille compte plus que toi? C'est ça l'objet de notre exhortation ce matin, bien-aimé. Dieu est-il vraiment notre priorité? Et le Seigneur reprend cette église en disant, repens-toi. Souviens-toi à quel moment tu es sorti de la bonne voie. Bien-aimé, vous savez, l'une des ruses du diable, le diable a des attaques dites directes et des attaques indirectes. Dans les attaques directes, il va attaquer Dieu directement. Il va attaquer la parole. Il va nous amener à sortir de la voie de Dieu. Mais bien souvent, il a du mal avec les chrétiens puisque les chrétiens ont la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça qui est efficace pour lui. C'est qu'il va utiliser maintenant des attaques indirectes. C'est lesquelles? C'est de t'amener à mettre autre chose à la place de Dieu. Bien-aimé, c'est ça la ruse. Vous savez, ce que je dis là, ce n'est pas inventé. Hein. Lorsque Satan vient pour tenter Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus répond par la parole de Dieu. Il le prend et lui dit, écoute, regarde tous ces royaumes-là, n'est-ce pas joli? Mais ça m'appartient, hein. Il suffit que tu m'adores et je te les donne. Jésus résiste, il monte en haut du pinacle du temple et lui dit, écoute, il est écrit que si tu sautes, les anges viennent te récupérer. Vous voyez comment le diable cherche à dérouter. Il a attaqué frontalement, ça ne marche pas. Alors, il cherche des moyens détournés. Puisque l'objectif, c'est quoi? Je me suis posé la question, monte en haut et tombe, les anges vont te prendre. Mais l'objectif, c'est quand tu montes en haut, tout le monde te voit. Tu as la gloire. Les gens vont parler de toi. Tu tombes, les anges, on va dire, oh, voilà cet homme ce qu'il a fait. Finalement, Dieu n'est plus seul Dieu, puisque toi, on parlera aussi de toi. Voilà pourquoi Jésus dit, malheur à vous lorsqu'on dira du bien de vous. Puisqu'en quelque sorte, vous acceptez de partager la gloire avec Dieu. Or, Isaïe 42, 8 nous dit, l'Éternel parle, il dit, je suis l'Éternel, je ne donne ma gloire à personne et je ne partage ma gloire avec aucune idole. Dieu est catégorique là-dessus. Deutéronome 10, 12, pour ceux qui écrivent, nous dit, mais ô Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi si ce n'est que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, bien-aimé. Et le diable va venir avec une attaque sournoise, indirecte, pour nous amener à avoir d'autres choses que nous priorisons au même niveau que Dieu. Puisqu'il sait que si il enlève Dieu, on va se rendre compte pour dire non, c'est pas normal. Moi, j'aime Dieu. Alors, il va mettre des choses pour que ce soit au même niveau que Dieu. C'est ça, bien-aimé. L'une des ruses du diable. Regardez le monde dans lequel on est là. Je pense que tout le monde aujourd'hui ici, en France, a une box de télévision avec au moins 200 chaînes de télévision. Tout le monde a un smartphone. Vous savez combien de temps on passe? Parfois, tu regardes quelque chose, tu dis, bon, 5 minutes, LinkedIn ou je ne sais pas quoi, ou Facebook, ou TikTok pour les jeunes et tout ça. Mais vous savez, tu as vite fait de passer 45 minutes sans te rendre compte que tu les as passées. Mais prends ce temps-là pour lire la Bible, tu vas voir que ça va être laborieux. Mais quand c'est pour regarder, et en plus, comme c'est des smartphones, c'est intelligent, c'est-à-dire que ça te suggère. Tu regardes une vidéo, parfois, et ils sont intelligents, vous voyez, parfois une vidéo, ça dure 30 secondes, c'est pas beaucoup, hein. Mais dans ta tête, tu dis, mais c'est 30 secondes, oh, ça va. Mais en fait, 30 secondes, ils te suggèrent une autre, 30 secondes, ils te suggèrent une autre, 15 secondes, et finalement, tu restes dans le thème, et tu passes une heure. Et parfois, cette heure-là, quand tu la prends, tu dis, bon, je vais prendre une heure pour méditer la Bible, je peux te dire que entre nous ici, si on est sincère, déjà même les pensées du jour qu'on envoie le matin, ah, c'est laborieux, hein, faut avoir le temps de lire. Hein. Soyons honnêtes, bien-aimés, c'est ça le thème de ce matin-là. Dieu est-il vraiment la priorité dans nos vies? Parfois on discute avec des personnes, comme le pasteur disait la dernière fois, mais souvent, tu dis, mais est-ce que tu as lu la pensée du jour? Oh non, j'ai pas eu le temps. Bah oui, mais... En fait, la réponse à ta question se trouve dans la pensée du jour. Non, on n'a pas le temps, il y a tellement de choses. Mais tu n'as pas le temps, mais je peux te dire que tu as quand même le temps de faire autre chose sur ton téléphone. Mais la pensée, tu dis, bon, ça attendra. Or, c'est souvent dans cette pensée-là, prendre, je suis gentil, 5 minutes, puisque ça nécessite quand même de méditer. C'est pas juste de lire, puisque c'est quand même un humain qui a écrit ça aussi. Donc, prendre le temps de dire, mais pourquoi ça a été mis comme ça? Qu'est-ce que Dieu a voulu m'apprendre au travers de cet humain qui a écrit? Quelle est la... Bien-aimé, il y en a très peu. J'ai discuté avec quelqu'un, une parenthèse, qui... Je crois qu'il y avait une faute dans une des pensées. Et une des sœurs me dit, oh, le pasteur, t'inquiète pas, ça passera parce que les gens ne lisent même pas. Et effectivement, il y a quelque peu qui vont te faire un retour, mais la majorité... Peut-être lisent, mais il y en a, ils ne se rendent même pas compte de rien, puisqu'ils n'ont même pas lu. Bah forcément, comment tu vas voir quelque chose que tu n'as pas lu? C'est ça la réalité, bien-aimé. Combien d'entre nous prenons le temps de nous poser, de dire, écoute, je me fais violence, je prends 5 minutes pour comprendre la pensée. Pas juste lire, mais comprendre, puisque Dieu me parle. C'est ce qu'on vient de chanter là. Merci pour ta parole. Par elle, je comprends ta pensée, Dieu. Combien d'entre nous prenons ce temps, bien-aimé? Mais pourtant, on a le temps pour autre chose. Or, ce autre chose-là, il ne finira pas. Tant que nous sommes sur la terre, on trouvera toujours des choses à faire. Et le Seigneur nous pose la question ce matin. Dieu est-il vraiment la priorité dans notre vie? C'est ça la question que le Seigneur nous pose. Cette église, était parfaite au sens humain. Mais le Seigneur a trouvé des choses à reprendre. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme riche qui va voir Jésus avec des choses à revendiquer. Et on nous dit que Jésus l'aima. Mais Jésus lui dit, une chose te manque. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue aux pauvres. Ensuite, suis-moi. En d'autres termes, Dieu est-il la priorité de ta vie? Vous voyez, bien aimé, cet homme-là, il avait des choses à revendiquer. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, on n'est même pas à ce niveau-là de cet homme. On n'est pas à ce niveau-là. On murmure, on a chanté encore sans murmurer, recevoir la parole sans murmurer. Combien de fois ne murmurerons-nous pas? Et cet homme dit à Jésus, mais dès ma jeunesse, toutes ces choses. Jésus lui dit, il est écrit, Jésus l'aima. Il lui regarde et lui dit, écoute, comme il a dit à cette église, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que Dieu n'est plus la priorité pour toi. Et si Dieu n'est pas la priorité, c'est qu'il y a autre chose qui a pris la place, bien-aimé. Il y a autre chose qui a pris la place. Et souvenons-nous, bien-aimé, que Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est cela, bien-aimé. Ce que le Seigneur nous dit, nous lisons Luc 9, ensuite Luc 14. Luc 9. Ensuite Luc 14. Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, Luc 9, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous lisons dans la foulée Luc 14, verset 15, on peut commencer. « Un de ceux qui étaient à table, Luc 14, verset 15, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. On peut s'arrêter là, bien-aimé. Vous voyez, bien-aimé, les textes qu'on vient de lire là, ce sont des gens qui sont attachés au Seigneur, qui ont un certain amour pour lui. Ils disent, Seigneur, je te suivrai. Je veux te suivre. Jésus même dissuade un en disant, écoute, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer. Il dit, Seigneur, je veux te suivre quand même. Mais vous voyez maintenant, lorsque le Seigneur appelle les gens, on nous dit tous unanimement dans le verset le chapitre 14 qu'on vient de lire là. Tous, verset 18, unanimement se mirent à s'excuser. C'est ça la réalité, bien-aimée. Est-ce que le Seigneur est la priorité? Vous voyez, tous ces gens-là, ils donnent des raisons qui ne sont pas de second plan. Ce sont des raisons importantes. Attends, quelqu'un qui dit à Jésus, mon père vient de mourir, je vais aller m'occuper des obsèques. Bien aimé, même, je pense que même dans le monde aujourd'hui, le monde séculier, le monde dans lequel on travaille, les ressources humaines prévoient 2 ou 3 jours, je crois, pour décès de parents proches. La loi autorise cela. Puisqu'on comprend que la personne n'est pas en mesure de travailler, la personne est dans une détresse, la personne a besoin de temps. Et là, vous voyez, Jésus dit à cet homme, non, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Mais pourquoi une réponse dure comme ça? Pourquoi une réponse si difficile? Premièrement, puisque toutes les excuses que nous opposons à Dieu ne sont pas valables devant Dieu. Deuxièmement, Jésus dit à cet homme-là, il y a des gens qui vont s'occuper de ces choses-là. Moi, j'ai besoin de toi pour aller annoncer l'évangile à ceux qui risquent de mourir sans avoir entendu l'évangile. La priorité, c'est d'abord Dieu. C'est cela, bien-aimé. Alors, si Jésus ne reçoit pas une telle excuse, alors pensons-nous, bien-aimé, que toutes les excuses que nous pouvons opposer à Dieu sont valables devant le Seigneur. Est-ce que tout cela est valable, bien-aimé? Je n'ai pas la réponse. Je pense que chacun, par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, aura la réponse. Quand nous rechignons, quand nous traînons des pieds à faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ces textes qu'on a lus là nous apprennent beaucoup de choses. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est que Dieu ne manque pas de ressources. Hein. Vous voyez, quand les gens qui étaient censés arriver au souper s'excusent unanimement, le Seigneur dit quoi aux serviteurs? Va dans les lieux publics, prends tous les estropiés, prends tous les boiteux. C'est-à-dire que Dieu, bien-aimé, ne manque pas de ressources. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Personne n'est incontournable. Jésus dit à Pierre, c'est moi, Matthieu 16, je bâtirai mon église. Mais la vraie question, c'est, est-ce que le Seigneur était la priorité pour ces gens? C'est ça la question, bien-aimé. Puisqu'ils disent, Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Oui, c'est une chose. Mais est-ce que le Seigneur est la priorité? C'est ça la question. C'est bien beau de dire, oui, Jésus, oui, oui, ça, ce sont des discours. Mais la question, c'est la primeur, la première place. Est-ce qu'elle est réservée à Dieu? C'est ça la question, bien-aimée. Et le Seigneur nous interpelle là-dessus. Vous savez, les excuses, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moïse, je me rappelle, lorsque Dieu l'appelle, il lui dit, va parler à Pharaon. Qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas parler. Gédéon donne aussi des excuses en disant, je suis petit. Ma famille est insignifiante. Et Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Jérémie, je suis petit. Dieu dit, écoute, avant même que tu sois là sur la terre, moi je t'avais conçu, je te connaissais. C'est ça, bien-aimé. La question aujourd'hui, est-ce que Dieu est-il notre priorité? Ou alors Dieu fait partie de notre vie au même titre que, vous savez, comme certains font, il va au travail, il rentre, il a une séance de sport de telle heure à telle heure. Il a une activité associative peut-être, caritative peut-être, bénévolat peut-être, le samedi. En fait, ça fait partie de sa vie. Et c'est ça la question. Peut-être que Dieu aussi fait partie de notre vie au même titre que celui qui s'entraîne le samedi matin, qui va dans la salle de sport. Et nous, bon, Dieu, c'est le dimanche de 10h à midi. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, nous avons fait fausse route. Si tel est le cas, alors nous avons fait fausse route. Puisque Dieu veut tout. C'est ça, bien-aimé. Dieu veut la priorité. Et vous savez, parfois le Seigneur permet des difficultés dans nos vies pour nous amener à l'essentiel, comprendre ce qu'il veut. Parfois c'est une maladie. Parfois c'est une épreuve. Dans l'épreuve, on peut mettre tout ce qu'il y a derrière, une difficulté quelconque. Pour nous amener, premièrement, à comprendre que nous sommes incapables de résoudre le problème par nous-mêmes, mais surtout, comprendre maintenant la réalité des choses. Vous savez, comme le proverbe dit, celui qui réfléchit, proverbe 16, 20, je crois, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Et mardi, on a vu quoi dans Ecclésiaste 7, que Dieu permet le malheur, pourquoi ? Pour que l'homme puisse réfléchir. Pour que l'homme puisse méditer. C'est ça, bien-aimé. Dieu permet les difficultés pour qu'on puisse se poser et dire, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Et la réponse du Seigneur, ce sera, je veux la première place. C'est ça. Ça ne sera pas autre chose, bien-aimé. Ça ne sera pas autre chose. J'avais prévu qu'on lise quelques textes, mais je veux qu'on soit vraiment succinct. J'avais prévu qu'on lise l'histoire d'Abraham. Vous savez, Genèse 22, lorsque Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils. Isaac. Peut-être qu'Abraham a dû se poser la question, lequel ? Dieu lui dit, celui que tu aimes. Isaac, puisque Abraham en avait deux à ce moment-là. Sachant qu'il a attendu Isaac depuis très longtemps. Et Dieu lui dit, tu livreras ce fils. Et lorsqu'Abraham va pour faire le sacrifice, Dieu lui dit, arrête. L'ange lui dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Mais quel était l'objectif de Dieu dans tout ça, bien-aimé ? C'est, suis-je à la première place ? Vous savez, bien-aimé, il y a une différence entre recevoir quelque chose sans avoir spécialement attendu et attendre longtemps ensuite le recevoir. Je ne sais pas si on est, je sais pas si on se comprend. Il y a une différence. Il y a une vraie différence entre celui qui a un enfant qui grandit, ben je ne dis pas que l'amour de l'enfant ne, par rapport à l'enfant sera différent, non. Mais l'attachement, vous savez, quand tu as galéré pour avoir ton permis, tu as passé 10 fois le permis, j'exagère, hein, je grossis le trait, je peux te dire que le jour où tu es avec tes copains dans la voiture, ils disent accélère, ah ben tu, toi tu penses que tu as galéré pour avoir le permis. Hein. Surtout que maintenant c'est des probatoires 6 points, donc c'est plus 12 points comme à l'époque. Je peux te dire que la folie des amis, tu refuses, hein, puisque tu as galéré pour l'avoir. Donc tu en prends d'autant plus soin. Mais celui qui a les choses facilement, bah, il peut penser aussi que c'est acquis. Alors Abraham a attendu longtemps. Alors les spécialistes disent 20 ans, mais 20 ans, vous savez, 20 ans, attendre un enfant pendant 20 ans, je peux vous dire que ça, c'est une épreuve, hein, bien-aimé. Je peux vous dire que là, ça veut dire que Dieu t'a testé, parce que l'épreuve, c'est on t'essaye, quoi. On t'essaye à gauche, on t'essaye à droite, on t'essaye en bas, on t'essaye. Dieu a essayé de tous les, dans tous les sens. Maintenant que tu as l'enfant, Dieu te dit, allez, tu le prends et tu vas me le sacrifier. Et c'est toi-même qui vas le tuer. Bien-aimé, vous voyez combien c'est, excusez-moi le terme, hein, cruel. Et à un moment donné, lorsqu'il va avec l'enfant, il dit à ses serviteurs, restez là, moi, avec l'enfant, nous allons adorer Dieu. Et lorsqu'il se retrouve seul avec l'enfant, l'enfant lui pose la question, il dit, mais père, il y a tout ce qu'il faut, mais l'animal est où? Abraham dit, bon, Dieu pourvoir. Mais à ce moment-là, Abraham sait que là où je vais, là, je veux tuer mon fils. Et au moment où je veux faire le sacrifice, l'ange lui dit, arrête. Dieu a vérifié que même si la promesse a duré longtemps, et comme j'ai dit tout à l'heure, plus quelque chose dure, quand tu l'as, ah bah tu ne vas pas t'en séparer, hein. Tu vas le garder précieusement. Donc Dieu sait qu'à ce moment-là, Isaac, c'est tout pour Abraham. Puisque c'est le fils de la promesse. Puisque c'est le fils tant attendu. Puisque c'est le fils pour lequel il a souffert. Et finalement, il a. Dieu lui dit maintenant, tu t'en sépares. Et lorsqu'Abraham obéit, Dieu lui dit, écoute, arrête. Je vois maintenant que tu aimes tellement Dieu, que tu crains Dieu et que tu l'aimes tellement que tu as été prêt à te séparer de ton seul fils sur qui toutes les promesses reposent. Bien-aimé, prenons exemple sur ce texte-là. Deuxième exemple, vous savez, la Bible nous parle de Anne. 1 Samuel 1. On dit que cette femme allait au temple pour prier. Elle était présente. Alors je ne sais pas si c'est écrit tous les jours, mais en tout cas, on peut imaginer qu'elle était régulière. Et vous savez, en méditant ce passage-là, qu'est-ce qui m'est venu? Vous savez, bien aimé, souvent, il y a des chrétiens qu'on voit, ou des chrétiens, il y a des gens qu'on voit, ou qui viennent à Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Et là, je peux vous dire qu'ils sont réguliers. Quand il est en galère dans le couple, galère familiale, galère financière, il sait que bon, l'église peut l'aider. Les pasteurs ou les frères, par l'intermédiaire de Dieu, vont pouvoir faire quelque chose pour lui. Je peux vous dire qu'il est régulier. Mais on nous dit que Anne allait régulièrement au temple. Elle priait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que Dieu permet parfois des situations difficiles dans nos vies pour qu'on puisse comprendre que la solution ne peut venir que de lui seul. Et Anne allait tous les jours au temple. Elle priait. Elle priait. Mais vous savez, le jour où Anne a prié en disant, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacrerai. Là, bien-aimé, les choses ont changé. En fait, ça a traîné comme ça, puisque, vous savez, Dieu a ses besoins. L'homme a ses besoins. Le besoin d'Anne, c'était d'avoir un enfant en tant que femme, ce qui est normal, ce qui est légitime même, je dirais. D'autant plus qu'elle avait Pénina, sa rivale, qui se moquait d'elle. Sans compter le contexte, hein, politique, le contexte de la situation géographique. C'est pas comme ici en Europe, une femme décide de dire, bon, moi c'est ma carrière et puis l'enfant, on verra peut-être à 45 ans. Ah, c'est pas comme ça. Là, tu as la pression de tout le monde. On te dit rien, mais tu sens qu'on te dit quelque chose. « Quelle souffrance. Et Anne prie et dit, Seigneur, donne-moi un fils, je te le consacrerai. Elle répond maintenant aux besoins de Dieu, puisque, vous savez, au début du texte, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. C'est Dieu qui avait fait les choses ainsi. Et Anne prie maintenant comme ça, et le sacrificateur, Élie, lui dit, va en paix, Dieu exauce ta prière. Et vous savez, lorsque Anne a ce fils-là, elle va voir Elkana, son mari, pour lui dire, écoute, une fois que l'enfant sera sevré, il sera prêté toute sa vie à l'Éternel. Elkana lui dit quoi? Ma femme, fais comme Dieu a mis dans ton cœur. Parce que Elkana est... Attends, tu as attendu si longtemps. Maintenant, tu as un enfant. Tu vas le laisser au temple. Il dit, écoute, fais comme Dieu te conduira, te mettra dans ton cœur. Et bien aimé, c'est ce que cette femme-là a fait. Et nous connaissons tous hein, ce qui a été ce fils Samuel. Dans Jérémie 15, je crois, Dieu parle de Samuel. Il dit, même si Samuel prie, je n'écouterai pas. Vous savez, il y a des gens bien-aimés qui ont une place de choix auprès de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu était vraiment leur priorité, leur vie. C'est ça, bien-aimés. Et comme je disais, beaucoup, quand ils sont en difficulté, on les voit à la prière, à l'intercession, il est là. Quand il faut donner des sujets, il est là. Mais quand tout va bien, où est la personne? On ne la retrouve plus. Hein. C'est ça la réalité, bien-aimé, malheureusement. Et je me mets moi-même dedans, bien-aimé, nous sommes comme ça, les humains. Nous sommes ingrats. Luc 17, on se rappelle hein, de l'histoire des lépreux, où Jésus s'offusque en disant, mais où sont les 10? Où sont les 9 autres? Il n'y a qu'un seul qui revient à rendre gloire. Mais bien aimé, quand on lit ça, on se dit, mais c'est quand même fort du café. Mais nous sommes comme ça, les humains. Quand on a ce qu'on voulait, ah, on oublie. L'enfant même que tu as eu, tu dis, oh, ah, tu sais, mais je n'ai pas le temps. Hein, mais tu sais, un enfant, ça change une vie. Hein. Bien aimé, la vie que tu as là, c'est Dieu qui te la donne. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui te le donne. L'intelligence, je ne dis même pas l'intelligence, la capacité à utiliser le cerveau bien-aimé, ça vient de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu cette capacité-là. Ils ont perdu la capacité. Alors toi, tu l'as bien-aimé. Ne rendrais-tu pas à Dieu la prééminence, la première place? Et nous allons finir, bien-aimés. Vous savez, quand Dieu est la priorité dans notre vie, ça va se manifester par un amour total pour lui. L'apôtre Paul le dit hein, dans 1 Corinthiens 9, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit dans 1 Corinthiens que l'amour de Christ nous presse et nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous doivent vivre et mourir pour lui. C'est ça, bien-aimé. Quand tu es la priorité, un autre point. Tu vas te soucier de son œuvre. Tu ne diras pas, il y a le pasteur, il y a un tel qui est là qui va le faire. Non. Tu vas te soucier toi-même. De Dieu. Vous savez, lorsque David se retrouve dans son palais royal, quelle est la pensée de David? La tristesse. Il se dit, mais c'est pas normal. Moi, je suis un humain. J'habite dans un palais et Dieu habite dans une tente. Il va voir Nathan pour lui dire, écoute Nathan, j'ai un projet, je veux bâtir une maison à l'Éternel. C'est pas normal, c'est injuste. Nathan lui dit, bon, fais comme tu as résolu dans ton cœur. Et ensuite, Nathan, Dieu parle à Nathan pour lui dire, non, ce ne sera pas lui qui bâtira le temple, ce sera son fils. Et qu'est-ce que David fait? Il a commencé à préparer le bois, tout le matériau nécessaire pour que son fils puisse... Bien-aimé, vous savez quand on dit que de David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'était quelqu'un qui mettait Dieu à la première place en toute chose. Quand il devait aller combattre, on se rappelle dans 1 Samuel 30, à Tsiklag, quand il devait aller se battre, il pose la question en disant, mais Seigneur, monterai-je ou pas? Dois-je y aller ou pas? Dieu lui dit, vas-y. C'est ça, bien-aimé. Quand Dieu est à la première place, bien-aimé, tu n'attends pas qu'on te dise les choses. Vous savez, un jour, bon là c'est la faute de David, hein? Lorsque David prend Bathsheba et ensuite, il dit au mari de Bathsheba qui s'appelait Uri, chef de l'armée, il dit à Uri, pas chef de l'armée mais son adjoint, pardon, puisque c'est Joab qui était le chef de l'armée, il dit à Uri, reste chez toi, puisque tu es certainement fatigué. Mais vous savez, David voulait masquer le fait qu'il est parti avec sa femme. Il dit, reste chez toi, tu es exonéré d'aller en guerre. Uri dit à David, mais comment ça, roi? Le peuple se bat et moi, je vais rentrer chez moi tranquillement, au chaud. Il dit, jamais de la vie. Et là, bien aimé, David a trouvé plus fort que lui. Uri dit, aussi vrai que Israël est en guerre, moi j'irai sur le champ de bataille. Bon, malheureusement, David a fait un complot avec Joab, pour éliminer Uri, pour cacher ce qu'il avait fait. Il s'est repenti derrière. Mais bien aimé, je prends ces exemples-là pour nous montrer des gens qui ont priorisé Dieu. Alors on peut donner toutes les excuses. J'ai ceci à faire. Vous savez, quand Dieu est la priorité, on arrête de faire. Je ne sais pas si certains, peut-être en France, je ne l'ai pas trop vu, je n'ai pas vu beaucoup de cortèges du président de la République, mais vous savez, en Afrique, quand un président de la République passe, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui se passe quand le président de la République passe avec son cortège? Il se passe quoi? Qui peut... Il n'y a pas de question piège. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les voies sont bloquées, toutes les voitures s'arrêtent. Tout le monde s'arrête, c'est-à-dire que vous arrêtez tous sur le côté. Le cortège passe. Et parfois même, dans certains moments, vous sortez tous des voitures, les mains visibles, puisqu'on ne sait jamais. Quelqu'un peut tirer. Donc, vous sortez tous des véhicules, les mains visibles. Donc, le monsieur passe avec 30 voitures. Une fois que c'est fini, la vie recommence. Bien-aimé, je prends cet exemple-là pour nous dire quoi? Même si tu as prévu des choses... C'est quand Dieu te convoque, ben tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu arrêtes tout, puisque c'est Dieu la priorité. C'est ça, bien-aimé. C'est cela. On le voit parfois dans les entreprises. Moi, je vois ma directrice, on peut faire quelque chose. Quand la DG appelle, je peux vous dire que, quelle que soit la chose qui est faite, elle s'arrête pour répondre puisque c'est la DG. Bien-aimé, c'est la priorité en ce moment-là, elle est dictée par celui qui te parle. C'est ça, bien-aimé. Mais Dieu, il est plus que le DG. Dieu, c'est l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. Combien de fois nous traînons en disant, j'ai prévu ci, j'ai prévu ça, j'ai prévu. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que, bon, on ne va plus vivre notre vie, mais nous disons que notre vie est au service de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Tu es la priorité. C'est cela. Quand Dieu est notre priorité, on se préoccupe de son œuvre, on anticipe. On a le souci. Vous savez, Jésus parle avec la femme samaritaine. Et les disciples viennent le voir pour lui dire, « Maître, Jean 4, verset 34, « Voilà, nous t'amenons à manger. » On est allé chercher à manger dans la ville. Et vous savez ce que Jésus répond, Jean 4, 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ça la réponse de Jésus. Pourtant, juste avant que Jésus rencontre la femme samaritaine, il avait faim. Les disciples vont chercher à manger. Et quand ils reviennent, ils disent, « Maître, regarde. » Il dit, « Non, ma nourriture à moi, la priorité, c'est d'accomplir l'œuvre pour laquelle mon Père m'a envoyé. » Tout le reste reste en pause. C'est ça, bien-aimé. Quand Dieu est la priorité. Quand Dieu est la priorité, on s'attache à la vérité. On s'attache à la parole. On ne trie pas. Vous savez, il y a des versets parfois qu'on aime entendre. Il y a des versets, quand tu le lis, tu passes vite la page, puisque ça ne t'intéresse pas, puisque ce qui est dit te dérange, puisque ce qui est dit peut-être dénonce ton état peut-être de péché ou autre. Alors tu ne veux pas, alors tu passes vite, tu choisis. Mais vous savez, quand Dieu est la priorité, tu acceptes la parole de Dieu telle qu'elle est. Puisque c'est Dieu qui parle. Et puisqu'il a quelque chose à changer, à transformer en nous. C'est ça, bien-aimé, la vérité. Alors la question d'aujourd'hui, c'est Dieu est-il notre priorité? Dieu est-il vraiment notre priorité? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie? Mais sache que les autres choses passeront. Mais non seulement ces choses-là passeront, mais nous aurons des comptes à rendre devant Dieu pour lui dire, « Bon Seigneur, j'ai choisi ceci à ta place, mais comment tu vas le justifier devant Dieu, bien-aimé ?» On a vu hein, Luc 9, Luc 14. Pour Jésus, toutes les excuses qu'on oppose n'ont aucune valeur. Puisque c'est lui le Dieu véritable. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à poursuivre la méditation, Seigneur, de ce qui a été dit. Ce matin, merci de nous aider, Seigneur. Seigneur, tu vois combien, Seigneur, nous sommes comme, peut-être, Seigneur, ces humains, ces hommes dans Luc 9, Luc 14, qui donnant, Seigneur, des justifications, des excuses. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, puisque tu nous donnes la possibilité aujourd'hui d'écouter ta parole, Seigneur, et de nous transformer par elle. Nous prions pour que tu nous transformes. Nous voulons faire de toi, Seigneur, notre priorité. Pardonne-nous pour les négligences, Seigneur. Pardonne-nous pour la religiosité aussi. Pardonne-nous de t'avoir mis, Seigneur, au même niveau que nos autres activités quotidiennes, Seigneur. Aller faire les courses. Aller à tel endroit et parfois on te met aussi dans le même programme, au même niveau. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur, comme Abraham, comme Anne, comme toutes ces personnes que nous avons citées, David, pour qui tu as été la priorité dans leur vie. Comme notre Seigneur, notre Maître Jésus-Christ, qui a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi se fasse. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à faire de toi notre priorité. Nous bénissons ton nom pour ta parole au nom de Jésus. Amen.